Les marchandes de sable, il était une fée. Ondine de Claudine Glot et Armelle Gaulm. Chapitre 1. Le soleil tombe en longs rayons à travers les branches des sapins et parsème la mousse des mille nuances qui séparent le vert de l'or. Huldebrand de Rigstetten chevauche avec insouciance, humant l'air embaumé par la sève des grands arbres. Un écureuil affairé traverse le chemin. Au loin ruisselle une cascade. Le jeune chevalier se demande pourquoi l'évocation de cette forêt, la forêt obscure, fait naître tant de frayeurs dans le cœur de chacun. Lorsque Bertalda, héritière d'un riche duché, a mis les chevaliers au défi de traverser sans escorte ces bois profonds et ces ténébreuses futaies, Huldebrand y a vu l'occasion idéale de montrer sa valeur à la jeune femme dont le courage est aussi grand que la beauté. Sans s'inquiéter de la réputation du lieu, il s'était lancé vers l'immense masse noire qui moutonne jusqu'au pied des montagnes. Ce matin, sa route a été sereine. La majesté des bois n'a cessé de l'enchanter et son étalon gris, habituellement si ombrageux, s'est laissé mener sans broncher. Où sont donc les esprits vengeurs, les kobolds cruels, les trolls mangeurs d'hommes ? La fin du jour ne va plus tarder et s'il ne trouve ni cabane de fortier ni abri de charbonnier, il ne lui restera plus qu'à dormir appuyé contre sa monture, enroulé dans sa cape de laine des Flandres. Demain, il sortira de la forêt peu après midi et gagnera le fleuve sur lequel il naviguera jusqu'au palais. Il s'arrêtera au passage, vider quelques verres de vin rhénan dans une auberge accueillante, et dès son arrivée en ville, courra réclamer à Bertalda le gant promis au vainqueur de l'épreuve et le baiser qu'elle se doit de lui accorder. À ses pensées, Huldebrand n'a pas remarqué que le paysage a changé. Le soleil est maintenant bas sur l'horizon, le vent tord les branches des arbres et des ombres étranges semblent courir en tous sens dans le sous-bois. Pour chasser ses illusions, qu'il attribue à la fatigue d'une longue chevauchée, il décide de chanter un air joyeux. Mais les notes se figent dans sa gorge. Une forme sombre, de la taille d'un ours, s'agite entre les branches d'un chêne. Huldebrand cherche à saisir son épée, mais une pluie de ramilles s'abat sur lui en même temps qu'une voix rauque s'écrie. « Indiscret, toi qui voles nos secrets, voici du petit bois pour te faire griller !» Le cheval, terrifié, embarque son maître dans un galop furieux. Huldebrand, bien qu'habile cavalier, n'essaie plus de diriger sa monture et emploie tous ses efforts à se maintenir en selle. Les talons foncent vers un précipice ouvert dans le flanc de la montagne. Huldebrand distingue déjà les rochers acérés et l'ombre sans fond du gouffre. Il se prépare à vivre sa dernière heure après une chute effroyable. C'est alors qu'une forme blanche surgit devant son cheval. Un homme gigantesque et d'une pâleur extrême leur barre la route. Le cheval s'arrête net, manquant de jeter son cavalier au sol. Ce répit suffit à Huldebrand pour reprendre sa monture en main. Une fois ses esprits retrouvés, le chevalier doit se rendre à l'évidence. Les géants vêtus de blanc a disparu. À sa place, un torrent dévale la montagne en un flot d'écume jusqu'au fond de l'abîme. Huldebrand se résout à emprunter, avant la nuit noire, le chemin qui mène au cœur de la vallée, un chemin certes plus long, mais plus sûr. Alors qu'il chevauche depuis quelques minutes dans cette direction, il se retourne brusquement et aperçoit derrière lui un kobold d'une laideur effrayante, affligé d'un nez aussi large que son visage, d'une bouche tordue et édentée, d'une peau cireuse grêlée de marques noirâtres. La repoussante petite créature sautille vers le chevalier et commence à lui faire mille courbettes en souriant de l'air le plus niais du monde. « Écarte-toi des sabots de mon cheval !» lance Hildebrand, et laisse-moi aller mon chemin.
Ingrat jeune homme, grimace le vilain.
As-tu déjà oublié que je viens de te sauver la vie? Sans moi, tu ne serais plus que des dégoûtantes bouillies écrasées sous les rochers.
Cela mérite bien une petite récompense.
Et aussi menteur que l'est, je dois la vie au torrent qui a arrêté mon coursier. Mais les Rickstetten sont généreux et je vais malgré tout t'accorder une aumône que tu ne mérites guère. Hildebrand jette une pièce d'or au lutin tout en mettant son cheval au galop. Derrière lui, la voix grinçante du nain crie
« Mauvaise monnaie ! Mauvaise monnaie ! Homme trompeur !»
À ces mots, le chevalier immobilise sa monture. Le nain, tout bleu d'avoir couru, élève vers lui sa main difforme aux longs doigts crochus, agitant la pièce d'or. Hildebrand croit l'apaiser en lui lançant un gros doublon, mais le nain redouble de rage.
« Je ne veux pas de l'or sali par les hommes. Avec mes frères, je possède l'or pur qui dort dans la terre. Regarde sous tes pieds et comprends si tu peux. »
Au moment même où le kobold se tait, Hildebrand voit le sol de la forêt devenir transparent, pareil à une fenêtre ouverte sur les entrailles de la terre. Là s'agite une foule de nains roulant des brouettes pleines de pièces d'or, rangeant des monticules de lingots d'argent, critriant des pépites aux formes les plus biscornues. Le kobold s'est jeté à terre et, à moitié plongé dans le puits, il pioche des pièces qu'il lance par-dessus son épaule vers Hildebrand. Puis il crie quelques mots d'un langage rocailleux et les nains se précipitent vers la surface, les uns montant sur les épaules des autres. Telle une marée, ils encerclent cheval et cavalier. Le jeune homme n'a que le temps d'éperonner sa monture qui franchit en deux bonds les rangs serrés du petit peuple piaillant de rage. La lune luit, pleine et argentée, au-dessus de la forêt. À travers les hêtres qui ont succédé au pin noir, Hildebrand voit briller un chemin empierré qu'il s'apprête à emprunter. Mais à cet instant, une haute silhouette blanche, à peine humaine, lui coupe la route. Le cavalier tente de la contourner, mais la créature, dont il aperçoit le visage blême aux traits mal définis et le gigantesque corps sans couleur, se dresse de nouveau devant lui. Pendant plus d'une heure, le géant blanc déroute ainsi Hildebrand, lui envoyant à la figure, chaque fois qu'il tente de s'échapper, une écume qui l'aveugle. Le jeune homme doit se résoudre à suivre le sentier vers lequel le dirige son maléfique guide. Un ciel d'un bleu profond où se pressent des milliers d'étoiles remplace bientôt la cime obscure des arbres et une vaste clairière s'ouvre devant le jeune homme. Il devine un lac et une chaumière bâtie sur la rive. De la fumée s'élève au-dessus du toit. Une chandelle éclaire l'unique fenêtre. À la lumière de la lune, Hildebrand remarque que la prairie forme comme une presqu'île séparée de la forêt par un ruisseau qui se jette dans le lac. Le chevalier s'élance vers la petite maison. Assis au coin du feu, le vieil Albrecht écaillait les poissons qu'il avait pêchés en abondance, comme chaque jour, dans l'immense lac. Le silence de la nuit s'étendait sur la maison, quand un bruit inhabituel va rompre le calme. Il lui sembla qu'un cavalier arrivait de la forêt au galop. Albrecht savait pourtant que nul ne pouvait franchir les bois sombres de la forêt obscure, sans risquer d'y laisser la vie ou la raison. Lorsqu'il lui arrivait de les traverser pour aller vendre son poisson à la ville, si le lac était trop agité pour naviguer, il recommandait son âme à Dieu pour tout bon chrétien et priait les esprits des bois de lui accorder et de lui pardonner son audace. Albrecht sortit donc, la main serrée sur le manche de son couteau. En face de lui, sur un grand cheval gris, se tenait le plus beau chevalier qu'il eût jamais vu. Son juste corps de velours pourpre brodé d'or, le fourreau d'argent guilloché de son épée, les plumes d'autruche qui ornaient son casque et sa selle rehaussée d'ivoire et d'ébène proclamaient sa richesse. Le jeune homme sauta à terre et se présenta au vieil homme. Il lui demanda de bien vouloir accepter de le nourrir et de l'héberger pour la nuit. Albrecht, soulagé de ne pas avoir affaire à un esprit maléfique, acquiesça aussitôt. Avant d'entrer dans la petite maison, le chevalier ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière. Une grande silhouette blanche semblait glisser parmi les arbres. Mais Hildebrand eut beau scruter la nuit, il ne distinguait plus que le ruisseau, qui jusqu'alors si calme, se gonflait maintenant d'une eau écumante. Grete, l'épouse d'Albrecht, les attendait près de la table où elle venait de disposer un pichet de vin et une miche de pain. Le temps de vider un gobelet, et le chevalier attaqua une croustillante friture. Alors qu'il savourait tranquillement son repas, il crut entendre une averse frapper la fenêtre. Le ciel était parfaitement clair, mais le phénomène se reproduit à deux reprises et un peu d'eau pénétra même dans la maison. Grete fronça les sourcils en fixant la vitre. Lorsque le carreau fut inondé pour la quatrième fois, le vieux se leva d'un bond et ouvrit la fenêtre. «
Ondine !» hurla-t-il dans la nuit. « Cesse immédiatement tes jeux et viens nous aider. Nous avons un invité de marque. Ce n'est plus le moment de te conduire comme une gamine mal élevée. »
Un rire léger lui répondit, puis le silence se fit. Le pêcheur et son épouse se regardèrent avec gêne. Alors la femme prit la parole. « Ondine est notre fille adoptive, Seigneur. Elle n'est pas tout à fait comme les autres, et parfois... » Soudain, la porte s'ouvrit et un courant d'air frais, au doux parfum de fleurs, balaya la pièce. Une longue jeune fille, souple comme les chevelures d'algues qui fleurissent le Rhin au printemps, se tenait sur le seuil. La blondeur de sa chevelure faisait naître un nouveau soleil au cœur de la nuit. Ses grands yeux étirés, presque bridés, hésitant et hésitaient entre le bleu et le vert, et de l'or scintillait dans ses pupilles. Muet d'admiration, incapable de se lever pour la saluer, Hildebrand dévorait du regard cette beauté irréelle. Il pensait confusément que son insistance risquait de gêner la merveilleuse apparition, mais la belle enfant lui rendit ses regards avec un ravissement égal au sien. Sans un mot, elle traversa la pièce d'un seul élan et se jeta aux pieds du chevalier. « D'où viens-tu, beau chevalier, en cette nuit, où approche la tempête ? Tu n'es pas arrivé par le lac, sinon je t'aurais vu accoster. Un cheval est attaché derrière la maison. Serais-tu donc passé par cette terrible forêt qui nous entoure ? Mais alors, les esprits des bois qui me haïssent tant t'auraient fait disparaître ?» Ondine avait noué ses bras autour des jambes du jeune homme et d'une voix pleine de tendresse, le priait de raconter sa traversée de la forêt. Albrecht lui ordonna de ne pas évoquer les sombres esprits avant le lever du jour. La jeune fille tenta de l'amadouer par ses sourires, mais comme son père ne cédait pas, elle entra subitement dans une violente colère. « Puisque vous ne voulez pas me faire plaisir, je ne resterai pas une minute de plus avec vous. Je préfère retourner dans la nuit et la tourmente !» lança-t-elle à la ronde. L'instant d'après, elle avait disparu, laissant la porte ouverte à tous les vents. Le mauvais vent se rapprochait, le ciel s'était couvert de nuages, des vagues parcouraient le lac, le ruisseau s'était mué en un torrent écumant. Tombé sous le charme de la jeune fille, Hildebrand ne put cacher son impatience et voulut immédiatement partir à sa recherche. Mais l'épouse du pêcheur le retint, sans mâcher ses mots. « Laissez donc cette petite effrontée courir à son gré. Elle ne craint ni la nuit ni l'eau. Si elle souffre, si elle a peur, cela lui servira de leçon. Elle ne pense qu'à elle, seule compte sa fantaisie. Et puis, elle n'a aucun sens commun. Toi, tu l'adores comme un vieux gâteux, » continua-t-elle tournée vers son mari. « Mais moi, j'ai toujours l'amer regret du jour où elle est entrée ici, comme si le lac nous l'avait envoyée. » Jetant son tablier sur la table, la vieille femme quitta les lieux et les deux hommes et claqua la porte de sa chambre derrière elle. Albrecht remplit en soupirant les gobelets de vin et entreprit de raconter à Hildebrand le grand chagrin de leur vie. « Nous étions mariés depuis plus de 20 ans quand une fille naquit dans notre foyer. Imaginez notre joie devant ce miracle, mais aussi notre chagrin lorsqu'à l'âge de 2 ans, notre bel enfant disparut dans le lac. Ma femme l'a surveillée. Le temps était clair et l'onde calme. Le drame arriva le temps d'un battement de paupières. J'ai plongé et replongé dans les eaux du lac. Grete a parcouru les rives des heures entières. J'ai dragué partout alentour. Nous ne l'avons jamais retrouvée. Le lendemain soir, on frappa tout doucement à notre porte. Une fillette de 3 ou 4 ans se tenait là, vêtue de somptueux vêtements, aussi ruisselants que sa chevelure dorée. Elle me souriait et attendait avec confiance, ses beaux yeux bleu-vert plantés dans les miens. Nous nous empressâmes de la faire entrer, de la nourrir et de la coucher bien au chaud. Elle se laissa faire sans un mot. Elle était si douce et le sourire ne quittait pas son visage, même pendant son sommeil. Le matin suivant, elle nous raconta l'histoire étrange et confuse des palais de cristal où vivait sa famille. Elle nous parla de son père qui était roi d'un pays lointain et d'un méchant oncle qu'elle redoutait.
Une seule chose semblait certaine. Elle s'appelait Ondine, était tombée d'une barque dans un lac de son royaume et s'était réveillée sur la rive d'une autre. Nous aurions dû la conduire à la ville et faire rechercher ses parents, mais nous avions tous deux la même pensée. Les eaux nous avaient volé une fille, elles nous en rendaient une autre. Un même espoir nous habitait. Quelque part, notre enfant était peut-être aussi en sécurité, dans une maison où on l'aimait. Nous avons gardé Ondine, sachant bien qu'elle ne serait jamais tout à fait comme nous.